Qualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et oui, je vous donne rendez-vous mercredi après-midi à l'Institut français de Ouagadougou pour l'enregistrement de deux émissions. Nous parlerons évidemment cinéma à l'occasion du FESPACO, comment promouvoir les films africains. Et dans la foulée, nous dresserons ensemble un état des lieux de la situation au Burkina Faso. Que reste-t-il finalement de l'espoir suscité par le régime? La chute du régime Compaoré, c'était, rappelez-vous, en octobre 2014. Eh bien, je vous attends nombreux. Vous pourrez débattre, réagir, échanger vos points de vue avec de nombreux invités. Venez donc passer l'après-midi du mercredi à l'Institut français de 15h à 18h. Plus d'informations sur la page Facebook de l'émission. Place maintenant donc à notre débat consacré ce matin à un sujet tabou. Nous allons parler de la santé des chefs d'État et on en parle, d'autant que ce sujet fait polémique en ce moment dans plusieurs pays. C'est le cas notamment au Nigeria où le président Buhari est à Londres depuis maintenant plus d'un mois pour des raisons médicales. Son séjour a plusieurs fois été reporté. Il a besoin de plus de temps pour se reposer, disait il y a encore quelques jours le porte-parole de la présidence, tout en rappelant le principe du respect du secret médical. En tout cas, depuis un mois, aucun bulletin de santé n'a été publié, aucune vidéo ni photo du président Buhari. Le principal parti de l'opposition réclame donc la vérité, alors que les rumeurs les plus folles circulent sur les réseaux sociaux. Polémique également en Algérie, où vous le savez, l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika fait régulièrement débat, d'autant que il y a quelques jours, il devait accueillir la chancelière allemande Angela Merkel. La visite a été annulée vraiment au dernier moment, à la dernière minute. Beaucoup s'interrogent du coup sur les conséquences de son état de santé sur le fonctionnement des institutions. Officiellement, on nous dit que la visite a été reportée pour indisponibilité temporaire du chef de l'État due à une bronchite aiguë. Alors que vous inspire le flou sur l'état de santé des présidents nigérians et algériens? Pourquoi cette question est-elle finalement si taboue? Et dites-nous si dans votre pays, le sujet est tabou justement. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Pour lancer le débat, Pierre nous appelle de Tanger. Bonjour Pierre.
Bonjour Monsieur Gomez et bonjour aux auditeurs de RFI.
Bienvenue sur notre antenne, on vous écoute. Vous dites que le président Bouteflika n'est pas en mesure d'assurer ses fonctions.
Et oui, je pense aussi que Monsieur Gomez, qu'un président qui est malade, c'est des pans entiers des institutions de son État qui se retrouvent ainsi paralysés. Le fait que le président lui-même soit le chef de l'exécutif et garant du bon fonctionnement des institutions de son pays. Et lorsqu'il est malade, justement, la vie de l'État s'arrête par ce fait. Et c'est justement ce qui se passe en Algérie, où le président n'arrive pas à assurer les fonctions les plus élémentaires qui sont les siennes et pour lesquelles il a été élu, et à travers l'annulation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de la visite de la chancelière allemande qu'il devrait recevoir il y a encore une semaine.
Ouais. Alors, vous dites, excusez-moi, qu'il a été élu, il a été réélu, il en est déjà à 4 mandats, ce qui était quand même surprenant, je ne sais pas si vous en souvenez, Pierre, au moment de la dernière campagne électorale en Algérie, c'est que le président Bouteflika n'a animé aucun meeting, il n'a fait aucune sortie publique. C'était par exemple son premier ministre qui prononçait les discours pour galvaniser les foules et appeler à voter pour Abdelaziz Bouteflika. On disait d'ailleurs à l'époque Bouteflika le fantôme, et malgré cela, les Algériens ont voté, et je reprends la formule des Algériens de l'époque, ont voté pour un fantôme.
Oui, et Monsieur Gomez, cette situation est totalement inadmissible et anormale dans un état de droit, et dans la mesure où le président de la République qui se présente au suffrage universel doit en quelque sorte lui-même se présenter devant les citoyens et leur expliquer pourquoi il désire se faire élire ou se faire réélire. C'est à ce titre justement qu'au Bénin, mon pays, par exemple, la Constitution prévoit qu'un candidat aux élections présidentielles doit être dans un bon état de santé mentale et physique, ouais. et constitué ou constaté en quelque sorte par des médecins de la Cour constitutionnelle.
Donc tous les candidats, ce que vous dites là par exemple par rapport au Bénin, à votre pays d'origine, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle doivent présenter un bulletin de santé.
Absolument, Monsieur Gomez. Et dans ce sens, le fait que le président de la République est l'élu du peuple, représentant du peuple, son état de santé devient fatalement une affaire publique et ne doit pas relever de la sphère publique, de la sphère privée, pardon. Mmh. Et dans ce sens-là, au moins, je pense que un bulletin par rapport à son état de santé doit être publié au moins une fois par an. Oui. Sinon, je pense deux fois. Dans la mesure où, véritablement, il est représentant du peuple, il est l'élu du peuple, et à ce titre, sa santé, en fait, son état exige une transparence totale.
Oui. Sinon, je pense que... D'accord, mais vous dites qu'il faut des bulletins de santé. Encore faut-il croire les bulletins de santé. En France, pour le moins, on a encore en mémoire François Mitterrand qui, quelques mois après son élection, apprend qu'il a un cancer de la prostate et finalement, durant toutes les années qui vont suivre, il va mentir aux Français. Certes, il va publier régulièrement des bulletins de santé, mais on le saura que plus tard, les bulletins de santé en question étaient finalement tous faux. Pierre, merci d'avoir appelé. Bonne journée au Maroc. Vous nous écoutez sur internet rfi.fr. Des réactions du Mali. Bonjour Boubou.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako et vous dites que la santé du président malien n'est pas du tout un sujet tabou.
Non, la santé du chef de l'État ne peut pas être un sujet tabou. Parce que vous savez, la stabilité même d'un pays dépend de la santé de son dirigeant. Le problème, c'est toutes les polémiques que nous entretenons autour de la santé du chef de l'État. Et c'est ça qui est dommage, parce que je pense que le système de presse, le système de communication mis en place ne fonctionne pas très bien.
Mmh. Alors voilà, vous faites référence effectivement à ces polémiques qui circulent. Tout à l'heure, je citais en introduction deux pays, le Nigeria et l'Algérie, mais effectivement, depuis plusieurs mois, au Mali, on s'interroge sur l'état de santé d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a certes été opéré il y a quasiment un an, il est venu en France se faire retirer une tumeur dans le cou, une tumeur bénigne, disait-on à l'époque. On ne l'a pas vu au sommet de l'Union africaine fin janvier à Addis Abeba, donc ça a une fois de plus relancé évidemment les rumeurs. Quand vous parlez de défauts de communication venant de la présidence malienne, à quoi pensez-vous exactement?
Oui, mais parce que comme vous le disiez, il a été opéré pour une tumeur et les Maliens n'avaient pas l'information. Donc quand ils ont pris l'information en retard, ça fait que ça décrédibilise tout ce qui vient après pour renforcer, pour infirmer ou pour confirmer cette information. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir communiquer en amont. Quand le chef de l'État est malade, qu'il doit aller pour des soins, qu'on nous tienne informés. C'est normal, à son âge, qu'il ait des soucis de santé. Mais je vous assure, sur sa santé, nous avons vu, vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu une autre polémique.
Tout à fait.
Mais là, contrairement aux autres fois, ils ont très bien communiqué. Parce que nous avons vu tout simplement un chef de l'État en train de recevoir le diplomate américain en pleine forme.
Ouais, parce que la polémique, aussi, juste pour resituer la polémique de la semaine dernière, c'est que le roi du Maroc, et je parle sous votre contrôle, hein, j'ai suivi ça un peu de loin, mais le roi du Maroc devait se rendre à Bamako, finalement la visite a été annulée, on a mis ça sur le dos de la maladie du président de la République, on a dit il est malade, il ne peut pas recevoir Mohamed VI, mais il se trouve que le même jour, le président Ibeka a pu accueillir effectivement un certain nombre d'ambassadeurs, le tout devant les caméras de la télévision. Donc ça a démenti tout de suite les fausses rumeurs.
C'est ça la communication par l'action. Mmh. Mais la visite du roi marocain, ça n'a rien à voir. Je crois que ça a quelque chose à voir plutôt avec l'histoire avec l'Algérie. Parce que quand il devait venir le même jour, je crois qu'il y a le secrétaire général de la présidence qui avait reçu des hauts responsables algériens. À mon avis, il a dû prendre ça comme pas bien du tout.
Ouais, rien à voir en tout cas, rien à voir avec son état de santé. Alors ne raccrochez pas, Boubou, puisque vous êtes quelques-uns à nous appeler du Mali, justement, pour réagir sur ces polémiques récurrentes autour de la santé d'Ibrahim Boubacar Keïta. Bonjour Mama.
Bonjour.
Vous dites, c'est normal de ne pas communiquer sur l'état de santé du président Ibeka.
Oui, tout à fait. Je pense que le président Ibeka est malade et ça, c'est un fait indiscutable. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est que je crois que le gouvernement a adopté la bonne stratégie. Le président, il fait son travail comme il peut. Aujourd'hui, le Mali travaille une situation très difficile dans un contexte d'insécurité et de crise dans le nord du pays. Donc, communiquer comme on veut dans la démocratie sur l'état de santé du président en dehors en fait du secret médical, à mon avis, ne paraît pas une bonne chose pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, le gouvernement peut être affaibli par la situation qui se passe au nord du Mali, avec le problème de terrorisme qui vient se greffer à la situation. Et donc, si on communique d'une certaine manière dans un contexte démocratique, cela pourrait mettre mal à l'aise l'autorité de l'État. Et je pense que ce mutisme du gouvernement, je l'apprécie à sa juste valeur.
Ça veut dire, attendez, vous dites, Mama, si je comprends bien votre analyse, communiquer sur l'état de santé du président de la République, c'est peut-être déstabiliser le pays. En tout cas, ça peut avoir comme répercussion la remise en cause de la stabilité du pays, notamment avec les attaques terroristes et djihadistes dans le Nord.
Même la remise en cause même de l'accord de paix qui a été signé. Les parties prenantes peuvent demain dire non, nous attendons, le président il est malade, nous n'avons plus négocié, on attend son départ. Ouais. Je pense qu'à mon avis, c'est pas la peine de communiquer sur la situation dans le pays.
Bon.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça rapporte aux Maliens qu'on communique sur la situation de santé du président ? En termes de transparence, ça rapporte quoi au pays ? Mais les conséquences, par contre, sont très graves. Pour le Mali.
On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Mama de nous avoir appelé de Bamako. 33 9 693 693 70. Que vous inspire le silence qui entoure bien souvent la santé des présidents de la République? Dites-nous si ce sujet est tabou dans votre pays. 33 9 693 693 70. Paul-Marie, me dit-on. Bonjour Paul-Marie.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
À Brazzaville, on vous écoute.
Ben, chez nous, ce n'est pas un sujet tabou puisque le président est présent à tous les sommets, donc ça ne fait de doute pour personne qu'il est. On peut supposer qu'il est en très bonne santé. Mais cependant, je voulais quand même dire que il y a une exigence de transparence parce que lorsqu'on est président, on ne s'appartient plus, on appartient à tout le peuple. Et donc il y a une exigence de transparence. Le président doit dire, doit communiquer, doit faire un bilan de santé et le communiquer. Au moins une fois par année, comme a dit l'auditeur Benoît tout à l'heure.
Et c'est le cas dans votre pays, Paul-Marie, au Congo-Brazzaville. La présidence publie annuellement un bilan de santé ?
Pas du tout. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Et je pense qu'on n'abordera jamais non plus. Parce que les présidents africains, pour certains, ils se comportent comme des Manitou. Donc, il ne tombera jamais malade. Vous attendrez seulement le jour où on dira qu'il est mort. Voilà. Mais au-delà de cette polémique, moi, je voudrais insister sur un fait. C'est sur le fait que les présidents africains sont souvent eux-mêmes à l'origine du chantage qui se fait autour de leur santé. Pourquoi vont-ils se soigner en Occident alors qu'ils investissent des milliers de milliards pour moderniser leur système de santé dans leur propre pays? Moi, je pense qu'il est bon qu'ils
investissent. Quand vous dites qu'ils investissent des milliards dans leur propre pays, certains nous disent justement sur Facebook qu'il ferait mieux d'investir les milliards dans leur propre pays et ça évitera aux chefs d'État d'aller se faire soigner effectivement, comme vous le disiez, à l'étranger. Par exemple, le président nigérian est en ce moment à Londres. Alors, on pourrait dire pourquoi est-il à Londres? Pourquoi ne se fait-il pas soigner tout simplement au Nigeria, à Lagos, par exemple? Le président malien est venu en France se faire retirer cette tumeur dans le cou l'année dernière. Abdelaziz Bouteflika vient régulièrement en France et pour des soins ou pour des opérations. Donc voilà, effectivement, vous pointez du doigt un point très important, Paul-Marie.
Ben, tout à fait. Pour moi, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'ils investissent des milliards pour le système de santé de leur pays, c'est un gros mensonge. Ce n'est pas prouvé par le fait qu'eux-mêmes, ils quittent leur pays pour aller se soigner en Occident, donc ils n'ont pas confiance en leur propre système de santé. Ouais. C'est un gros mensonge et un aveu d'échec.
Merci Paul-Marie, bonne journée à Brazzaville. Rachid, vous êtes à Paris?
Oui, bonjour.
Bonjour, éteignez peut-être le haut-parleur de votre téléphone, comme ça on vous entendra mieux. Vous réagissez sur l'état de santé du président Bouteflika?
Oui, je vous ai déjà entendu tout à l'heure, j'ai rebondi sur ce que vous avez dit, à savoir que les Algériens ont voté pour un fantôme. Les Algériens n'ont pas voté, ils ont boycotté. La totalité a boycotté. On ne peut pas voter depuis toujours, de toute façon, depuis la première fois. Bouteflika, quand il est arrivé au pouvoir, il était seul. Et comme vous venez de le dire, vous avez des gens qui... Ce sont des présidents dangereux, et pour la France, et pour l'Europe, et pour leur pays en Afrique. Donc, beaucoup de chercheurs disent que ce sont les véritables fabricants des clandestins. Comment ? Si ils sont soutenus par l'Union européenne et par la France particulièrement,
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de l'autre côté. Ils sont soutenus. Et de ce côté, ils peuvent venir, bien sûr. Tout le monde peut venir se soigner en France, en Suisse, avec des milliards.
Rachid, le réseau téléphone n'est pas bon. C'est dommage, vous êtes en région parisienne. Vous êtes en train de dire que sous prétexte que certains chefs d'État sont soutenus par les Occidentaux, notamment par les Européens, ils se permettent tout et donc de mentir sur l'état de santé de leurs dirigeants, sur leur propre état de santé. C'est ce que vous nous dites. J'ai du mal à vous saisir.
Non, si vous voulez, je suis en train de dire tout simplement que ils ont le feu vert de l'Union Européenne et de la France pour pouvoir gérer à leur guise ce qu'ils sont en train de faire, à savoir être président à vie.
D'accord.
Vous m'entendez ?
Je vous entends.
D'autre part, si vous voulez, ce sont eux qui empêchent la démocratie de jaillir, et ce sont eux qui font la majorité des clandestins qui viennent, c'est aussi la liberté d'expression, la liberté tout court. Donc, ils ne peuvent pas vivre, on ne peut pas vivre dans un pays si on n'est pas libre. Si on ne participe pas.
D'accord.
Si on est harcelé.
J'essaye de voir le lien avec la santé des chefs d'État. Rachid, reste en ligne. Il y a Fatih qui est avec nous. Il est aux Pays-Bas. Bonjour Fatih.
Oui, bonjour Joan.
Bienvenue, on vous écoute.
Je voudrais d'abord dire que Pierre, qui a téléphoné du Maroc, je suis complètement d'accord avec lui. Il a très bien expliqué l'état de l'Algérie et de la santé de Bouteflika. Ouais. Il l'a fait très, 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 très bien. En ce qui concerne Rachid, qui vient de me précéder, là, je comprends sa frustration. C'est une frustration qu'on ressent chez beaucoup de gens qui donnent la faute, justement, à l'Occident et à la France. Mais je dois dire là qu'il faudrait d'abord commencer par regarder chez soi. Et là, ce qui est très... Attendez, permettez-moi d'abord, avant que je passe mon commentaire personnel... Là,
allez-y, parce qu'on arrive malheureusement quasiment à la fin de l'émission. Donc, quelle est votre analyse ?
Je voudrais recommander un livre qui s'appelle « Ces malades qui nous gouvernent ». C'est très intéressant à voir.
D'accord, à lire, très bien. « Ces malades qui nous gouvernent ».
Oui, et ce qui est très très grave là en ce qui concerne la santé des chefs d'État africains, nous connaissons Bokassa, Idi Amin et tout ça, mais il y a aussi Bourguiba et Kadhafi, je ne parlerai pas de l'Algérie, ça a été bien expliqué, c'est que ce sont des pays autoritaires où il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc si jamais il arrive, le pouvoir est personnel, si jamais il arrive quelque chose au chef de l'État qui cache justement son état de santé, c'est très grave. Après lui, la situation risque de se transformer peut-être même en guerre civile, parce qu'il y a beaucoup de mafias qui ont envie de prendre le pouvoir. On le voit en ce moment-ci en Algérie, en Libye, ce qui se passe. En Tunisie, justement, Bourguiba, qui a été pendant 30 ans malade, mais lui, c'était aussi bien un malade physique que psychiatrique, et ce qui a sauvé la Tunisie de la guerre civile, ça a été Ben Ali. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a imposé une dictature corrompue avec des mafieux qui l'ont secondé pour prendre le pouvoir.
Bon, en tout cas...
Alors, ce qui est vraiment très, très délicat... Dans des pays autoritaires où il n'y a pas de contre-pouvoir ni une liberté de la presse, la santé du président est quelque chose qui est très très critique, et justement le peuple devrait savoir ce qui se passe juste en haut, qui tient les commandes du pays.
Bien, merci beaucoup Fatih. Vous parlez de démocratie, je rappelle quand même en France, on a connu avec Mitterrand, avec Jacques Chirac, on avait aussi tout fait à l'époque pour que le public ne sache pas la vérité sur son accident cardiovasculaire, c'était au début des années 2000. Bref, vous voyez, le sujet semble tabou aussi bien dans des pays moins démocratiques que dans des pays plus démocratiques. Merci à tous de votre fidélité. Demain, à cette heure-ci et à ce micro, vous retrouverez Charlotte Hydrac qui vous donnera la parole sur le malaise des anglophones du Cameroun. Ils se disent méprisés par rapport aux anglophones. Journée ville morte aujourd'hui dans les deux régions anglophones. Si vous êtes sur place, justement, appelez-nous et témoignez. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, à Ouagadougou. On y sera mercredi après-midi pour l'enregistrement de deux émissions. J'espère que vous serez évidemment très nombreux.